enfance, Karima. Est-ce que vous avez un souvenir précis et qui ferait le lien entre ce que vous êtes aujourd'hui, la cinéaste documentaire, et puis l'enfance que vous avez vécue? Est-ce qu'il y a un moment, une période de votre vie en tant qu'enfant, où vous vous dites, tiens, là, je peux quand même faire un peu un lien entre ce qui m'est arrivé à l'époque et ce que je vis aujourd'hui?
Ah, je ne m'étais pas du tout préparée à cette question.
On peut y répondre plus tard, hein, si vous le voulez.
Je pense que j'étais quand même dans un environnement avec mes frères et ma sœur où on regardait beaucoup de films. On allait, voilà, il y a un souvenir qui me revient. Il y avait un cinéma à Molenbeek qui s'appelait le cinéma Prado, qui n'existe plus évidemment, et qui était dans la rue de Prado. Et j'allais avec ma mère et mon frère, on allait au cinéma. Mmh. Et j'ai un souvenir de, avant que la séance ne commence, ouais, il y avait on faisait de la publicité, mais de manière concrète en fait. Et c'était les démonstrations.
Oui, on venait physiquement dans la salle.
Oui, ouais. Et on faisait les démonstrations de Cocotte Minute. Uh-huh. Je me rappelle, ça c'est mon premier souvenir dans une salle de cinéma, c'était ça. C'était avec ma mère, mon frère. Et puis c'est avant que le film ne commence, cette démonstration. Ouais.
Vous êtes nostalgique, Karima. Vous êtes une personne nostalgique d'un passé tel que vous décrivez ici, par exemple, un cinéma de Molenbeek à l'époque.
Je ne sais pas si je suis nostalgique. Je me dis que j'ai eu la chance d'avoir déjà plusieurs couches d'histoire et, ouais, de récits dans mon expérience de vie.
Je vous dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie dans vos films. Alors, je n'ai pas encore vu Ceux qui veillent, qui est votre dernier, mais par contre, j'avais été assez marqué en 2020 par Dans la maison, où vous filmez de manière très, très intime. Vous allez à la rencontre de votre maman qui souffre d'Alzheimer à la fin de votre vie. Vous refaites un voyage quelque part entre Tanger, sa ville, ouais, natale, et puis Bruxelles. Vous essayez de déterrer, si je puis dire, auprès de votre maman quelques souvenirs. Vous expliquez aussi, tiens, il y a une question qui m'avait marqué, c'est que vous aviez demandé à votre maman, qu'est-ce que vous vouliez pour nous, enfants? Comment est-ce que tu nous as éduqués? Mm-hmm. C'est la question que vous posiez. Il y a beaucoup de nostalgie, malgré tout, dans vos films, Karima.
Peut-être. Moi, je le vois pas... Je le sens pas comme de la nostalgie. Je visite l'histoire, je visite la mémoire... Je visite et revisite aussi ce qui reste et, ouais, comment ça se transforme aussi, ce que ça fait de nous, avec comment est-ce qu'on vit avec tout ça. Je pense que là, je dois avoir 5 ans.
Allez, c'est la photo de l'enfance que vous
avez. C'est la photo de l'enfance. Ouais. Et, je me souviens très bien du moment où on a pris cette photo, la visite d'un cousin du Maroc et la grande joie d'être ensemble. Et je suis contente d'avoir eu ces joies-là aussi. Mmh. C'est la trace de la joie qui me touche. Mais est-ce que je suis nostalgique? Peut-être.
La question qu'on pose souvent à ce stade-ci de l'émission, Cédric Potier le fait aussi assez souvent, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette jeune fille? Donc, je rappelle qu'on vous demande, comme invité, d'apporter une photo de l'enfance. Là, vous avez 5 ans, c'est un regard, une photo en noir et blanc, un sourire et un regard incroyable. Quand vous la voyez, cette jeune fille, vous avez envie de lui dire quoi, par exemple?
Mec, je suis tellement heureuse de la connaître. Mm-hmm. Quand je vois cet enfant, je trouve que... cette insouciance, cette innocence, cette manière d'être au monde, où à la fois on est totalement protégé et où tout ce qui vient à nous est, comment dire, on le prend tel qu'il est. J'ai un souvenir comme ça d'enfance aussi quand j'allais au Maroc petite. Mon oncle habitait. Derrière sa maison, il y avait un bidonville. Mmh. Et c'est... Et j'allais beaucoup jouer là-bas avec les enfants et tout ça. Et la chose que j'adorais faire, et c'est vraiment cet âge-là, c'était d'enlever mes chaussures et d'aller courir avec les gosses. Et ma mère qui essayait évidemment de me rattraper pour me mettre des chaussures, que je me blesse pas. Ou, ouais.
C'est marrant parce que depuis qu'on se parle il y a quelques minutes dans ce portrait, cette rencontre qu'on fait en direct avec vous, Karima, je parlais de nostalgie. J'ai quand même l'impression, et j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, par rapport à ce qu'on vit en été extrême, qui est particulièrement troublant, choquant et perturbant par rapport à ce qu'on vit avec les canicules, les images d'incendie en France. Depuis le début, je parle avec vous dans cette émission, on a l'impression qu'il y a quand même un monde qui nous quitte. On est en train de quitter quelque part un monde. Alors vous avez parlé aussi de votre enfance, ce cinéma à Bruxelles il y a de nombreuses années. Vous parliez de fait d'aller jouer dans un bidonville derrière, pieds nus, votre maman qui vous rattrape pour des chaussures. On a quand même l'impression de vivre aujourd'hui quelque part, de laisser échapper un monde qui disparaît, un certain monde qui nous échappe. Comme documentaire, ça vous parle?
Oui, mais c'est la question du soin, c'est la question du soin, c'est la question de l'attention, de la manière dont on regarde les autres, dont on est attentif aux autres. La manière dont on est attentif à la nature, ce qu'on fait à la nature.
Est-ce qu'un documentaire peut changer les choses, Karima? C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure, mais on en parle maintenant. On a beaucoup envie d'entendre des cinéastes, des artistes. Est-ce qu'ils peuvent vraiment changer les choses? On en reparlera très longuement tout à l'heure, mais je vous pose déjà la question ici. Vous êtes cinéaste, vous avez une formation aussi de réaliser des films. Je vous posais la question un peu en antenne, vous me disiez, mais oui, bien sûr que le documentaire peut, quelque part, nous emmener dans un temps différent et nous donner un regard sur le monde, sur l'histoire et sur l'avenir complètement différent des actus au direct qu'on vit au quotidien.
Mais c'est avant tout de pouvoir prendre le temps de poser ce regard, de se mettre à un endroit du monde et d'essayer, à travers ce qui nous a fait, de penser à un moment qu'on a quelque chose à dire sur le monde qui nous permettrait de le regarder peut-être autrement. D'où la nécessité. La nécessité, évidemment, qu'on ait aussi des multiplicités de regards.
Oui.
Sur ce que la nature subit. Il y a plusieurs films qui ont été réalisés et qui ont vraiment pointé les choses. Après, il y a toute la question politique de qui prend les décisions et qui décide aussi d'investir et d'être attentif à ce monde. Ouais. Et on n'est pas... L'état du monde n'est pas... Enfin, en tout cas, ce qu'on en voit... est extrêmement violent, c'est la noirceur. Pour l'instant, on nous pousse vers la noirceur et c'est un engagement d'essayer de garder une posture, si pas de hauteur, du moins d'essayer d'être attentifs les uns aux autres, de rester. Alors le mot bienveillant pourrait paraître caricatural, ou c'est vrai qu'il est souvent utilisé, mais je veux dire, est-ce que les gens se regardent encore, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones portables, nous permettent de regarder? C'est une fenêtre sur le monde, mais c'est une fenêtre qui est isolée. C'est-à-dire, vous êtes seul avec votre téléphone. On n'est plus dans le collectif.
Oui, on y reviendra. C'est une partie de l'espoir que vous détaillez déjà ici, mais on y reviendra tout à l'heure, Karima, dans la deuxième partie d'émission. Je sens beaucoup d'émotion aussi depuis le début de cette émission pour parler effectivement de votre regard de cinéaste sur ce qui nous arrive. C'est la sidération aussi par rapport à l'actualité. On va parler de votre déclic aussi dans un instant. La photo sur votre parcours pour arriver aussi à votre actualité. Elle nous a quittés. C'est une femme chanteuse qu'on va s'écouter sur la première ce matin. C'est Brigitte Bardot, si vous le voulez bien.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. C'est grisant, nu au soleil, complètement nu au soleil, complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Caché.
Cette femme nue au soleil, c'était Brigitte Bardot qu'on s'écoutait ce matin sur la première.
Tendance première.
Alors c'est Karima, donc Saïdi, merci d'être là ce matin, de participer à ce rendez-vous de l'été. Karima, pendant une heure, on jette un regard sur votre parcours de cinéaste. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que vous êtes belgo-marocaine, vous avez réalisé ce dernier film et on vous avait invité plusieurs fois dans Tendance Première, mais aussi dans Entrer sans frapper en culture pour parler de ce film. Et on en parlera tout à l'heure sur ceux qui veillent ce film dans l'immersion dans ce cimetière ô combien hors du commun du côté de Evers, Schaerbeek à Bruxelles. Le cimetière multiconfessionnel. Comment est-ce qu'on devient cinéaste, documentaire, Karima Saïdi? Parfois, c'est une rencontre qui provoque les choses. On vous demande d'apporter une photo déclic. Qui sont ces deux messieurs que l'on voit sur cette photo que vous avez apportée?
Ces deux messieurs, ce sont Jordi Guber et Krishna Guano. Et ce sont deux garçons que je vais rencontrer quand j'ai 17 ans. C'est l'été. Et je suis au Falstaff, qui était un des seuls cafés, oui voilà, qui était un café mythique des années 80 et 90. Hein. Et voilà, je vais boire d'un verre avec mes amis. J'ai 17 ans et ils sont assis à la table à côté et ils parlent en anglais. Ils sont super sympas. Et je sais pas trop comment on va sympathiser et ils vont m'inviter à venir chez eux et je vais découvrir un monde. C'était dans la rue des Éperonniers, il y a une ruelle qui est fermée en fait par une porte, donc qui est séparée de la rue principale par une porte. Vous rentrez en fait et vous vous retrouvez dans une ruelle avec plusieurs maisons. Et je découvre qu'il y a plein d'artistes qui habitent dans cette maison et il y a toute une, ce qu'on appelle l'avant-garde de l'époque, des tas de musiciens qui vont là, des peintres. Et Krishna, en fait, je découvre que Krishna Guano, c'est le chanteur de Liaison Dangereuse qui avait fait ce tube mythique Los Niños del Parque. Et ils sont ensemble, ils forment un groupe à l'époque qui s'appelle Vélodrome. Et je vais développer vraiment un lien d'amitié avec eux. Et ce sont deux personnes qui vont me faire découvrir des musiciens comme Dorothy Colum, Tuxé de Moon, qui sont donc tous ces musiciens qui viennent leur rendre visite, des plasticiens. Et en fait, ces gens vont vraiment m'ouvrir à un monde, pour moi, qui est un monde extraordinaire. Moi, je ne viens pas de là. Moi, je viens de Kokkelberg et Molenbeek. Je viens tout à fait d'un autre univers. Et ces gens vont vraiment m'accueillir chez eux. Leur maison va vraiment devenir un refuge pour moi, où je vais pouvoir aller quand je veux. Et ils vont, entre autres, me faire découvrir ce qu'on appelle les constructivistes soviétiques, c'est-à-dire toute cette avant-garde russe des années 20 et 30, et ils vont entre autres m'emmener à la cinémathèque et me faire découvrir Eisenstein et Dziga Vertov. Il y avait aussi les photos de Rodchenko et tout ça. Donc ils vont m'ouvrir à un monde. Et c'est vraiment à partir de là que va commencer ce chemin d'un désir de création, parce que pour la première fois, je suis vraiment dans un univers de créateurs.
Ouais. Vous parlez d'une jeune fille qui rencontre ce monde, et c'est la force, comme vous le décrivez. décrivait Karim Saïdi d'une ville comme Bruxelles.
Oui.
L'importance quand même de vivre dans une ville comme Bruxelles avec un bouillonnement culturel. Encore aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des jeunes qui peuvent se faire entraîner positivement dans des sphères culturelles qui les dépassent et qui les sortent aussi, ou enfin, qui leur fait découvrir autre chose. Par rapport à ce que vous aviez vécu et le passé aussi, je reviens un peu sur votre maman. Quel était le regard que votre maman, qui a grandi aussi, née à Tanger, au Maroc, quel regard elle portait sur justement cette sphère culturelle bouillonnante qui vous emmenait? Est-ce que c'était la contradiction par rapport aussi un peu à la famille? Vous étiez un peu en rébellion? Bien, comment se passait cette confrontation quelque part entre le milieu familial et ce milieu culturel qui vous a aussi construit doublement après votre éducation?
Mais je pense que c'était plus un regard d'incompréhension. Oui, c'était un je pense que sa grande inquiétude, c'était qu'il m'arrive quelque chose. Mm-hmm. C'était que... Voilà, je pense l'inquiétude en général des parents, c'est qu'il vous arrive un malheur. Mais là, j'étais dans un monde qui était tellement bienveillant, tellement doux, tellement... C'était ma deuxième famille. Je me rappelle, je vais vous raconter un souvenir qui, pour moi, résume vraiment la relation qu'il y avait avec elle sur... son étonnement, elle était vraiment... C'était la période de Ramadan et j'allais... Et y avait des concerts où je voulais absolument assister, mais oui. Le jeûne, à l'époque, c'était... Oui, c'était aussi au mois de juin. Le jeûne s'interrompt. Vous voyez, la rupture du jeûne avait lieu vers 9h30 et le concert commençait à 8h. Et comme je jeûnais, je me faisais des sandwichs, j'allais au concert, etc. Donc j'allais voir des concerts punk, des concerts new wave. Donc j'allais avec mes sandwichs, je dansais, je profitais à fond de ma soirée. Et puis à 9h30, je m'arrêtais, je me mettais sur le côté, je mangeais, je rompais mon jeûne. Et puis je retournais danser et m'amuser, quoi. Et je me souviendrai toujours de son regard où elle me voyait faire mes sandwichs. Et où voilà, elle pouvait pas m'empêcher d'aller vers le monde. Elle me laissait quand même, oui, aller vers le monde, mais c'était quand même un grand point d'interrogation, ouais, pour elle.
Est-ce qu'on parle de ces mondes qui s'entrechoquent quelque part, Karim Saïdi, le monde que vous avez connu aussi en tant qu'enfant, et puis le monde que vous décrivez aussi dans votre film sur votre maman qui est décédée avec la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, le regard que vous portez sur le monde actuel, le monde artistique actuel, est-ce qu'on peut encore faire ce genre de choses, ce genre de rencontres avec des sphères culturelles comme celle-là? Vous parliez en tout début d'émission de ce fameux smartphone, ce téléphone qui isole. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les jeunes cinéastes, documentaires, sur l'époque à laquelle on vit? Est-ce qu'on peut encore faire ce type de rencontres telles que vous l'avez décrite?
Oui, je pense. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus d'espaces qui sont dédiés aux rencontres aujourd'hui. Enfin, il y a quand même des espaces comme le Beurskoburg, Recyclard et d'autres endroits que je ne connais pas, mais où j'entends que les gens se croisent, créent ensemble. Je pense au contraire qu'on est vraiment dans une période qui est foisonnante en termes de création.
Ouais. Et pourtant, chez nous, en Belgique, on le dit aussi en dehors de la Belgique, si on regarde aussi à la fenêtre mondiale avec les États-Unis, on se dit que les temps sont durs pour la culture, pour la création.
Raison de plus.
Pour la poésie aussi. Aujourd'hui, on
en a besoin. Ouais. On en a besoin. On a besoin de la création. Elle est absolument nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas tenir dans ce monde si on ne pose pas de regard, si on ne vient pas confronter ce qui est en train de se passer. On doit répondre à ça.
On en parlera dans vos espoirs aussi. Dans un instant, Karim Saïdi, on va bien sûr parler notamment du film Dans la maison, puisque c'était la maladie d'Alzheimer aussi, et sur la fin de vie. Je vous poserai la question de savoir qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans l'actualité. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont particulièrement pertinents pour vous aujourd'hui, sur lesquels vous avez envie de vous engager ou de parler? Et puis on parlera aussi un petit instant sur Ce qui veille, qui est votre dernier film, où là vous interrogez aussi la manière quelque part d'accompagner nos morts à travers l'existence des cimetières chez nous. Et puis vos espoirs, restez bien avec nous, Karim Saïdi, jusqu'à 11h ce matin. Avec un cimetière aussi hors du commun que celui de Bruxelles. L'actualité, c'est à ce stade de l'émission et de la rencontre. Elle s'invite parce qu'on a envie de savoir, nos invités aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur les faits d'actualité. Qu'est-ce qui vous touche le plus, Karima Saïdi, aujourd'hui? Et vous allez faire le lien avec notre invité d'hier. On parlait beaucoup des maisons de repos avec Élie Gonnet, notre invité qui a été directrice, comme ses parents et ses grands-parents, d'une maison de repos. Et on reparlait avec elle. Vous avez cité, Karima, tout à l'heure, un mot qui peut paraître soit naïf, désuet ou bateau, c'est le mot bienveillance. On a reparlé avec elle hier de cette nécessité dans les crises, telles qu'on les vit aussi, une canicule par exemple, de refaire collectif, de refaire société ensemble.
C'est indispensable. Et la façon dont on traite les aînés dit quelque chose sur un état du monde, sur l'état de notre société. La marchandisation aussi de ce qu'on fait des aînés dans les maisons de repos est vraiment, pour moi, c'est vraiment la chose la plus effrayante qui soit. Oui, comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on veille sur eux? Comment est-ce que on les respecte? Ça, pour moi, c'est vraiment une chose qui est au-dessus de... Voilà, pour eux, enfin pour moi, c'est eux le sommet de la pyramide. Oui, c'est eux parfois, qui nous guident aussi.
Parfois, ce qui se passe, c'est une cascade de défaillances. C'est parfois un système de soins qui manque de moyens. L'invité d'hier nous disait, mais on ne trouve plus si on veut engager aujourd'hui des aides-soignantes. Et il y a effectivement une pénurie de jeunes qui ne veulent plus nécessairement s'engager parce que ce sont des métiers pénibles, qui ne sont pas forcément bien valorisés non plus. La défaillance les parfois des systèmes de travail. Les conditions de travail, les familles qui éclatent, le modèle familial qui évolue aussi. Et donc, quoi, ce qui vous touche, c'est quoi? C'est la solitude aussi qu'on retrouve dans ce type d'établissement?
C'est la solitude et l'isolement. C'est l'isolement que je trouve très violent et le fait que les aînés n'ont pas de place dans le collectif. Mm-hmm. C'est ça que je trouve, c'est qu'ils soient mis sur le côté.
Un film comme Dans la maison, que vous avez réalisé en 2020, où vous filmez de manière très touchante votre maman atteinte d'Alzheimer, on peut faire le lien entre ce que vous dites ici et le fait de réinterroger. Vous avez, vous, fait un exercice dans ce film de finalement réinterroger la mémoire de votre maman, et on peut sentir dans ce film, Dans la maison, toute l'importance. C'est tellement essentiel de faire parler nos aînés avant qu'ils ne disparaissent.